parents et enfants autour de la table. C'est l'heure de jouer. C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Bonjour à tous, ne cherchez plus le bonheur et dans C'est Ludique aujourd'hui. Alors pas seulement parce que Mike de Cocktail Games sera mon invité d'ici quelques minutes. Alors si, hein, forcément, car on parlera de la petite bombe ludique du printemps Happy City. Mais pas que, hein, on rêvera également avec Dream Quest, le nouveau jeu des Space Co, la filiale enfant des Space Cowboys, co-édité avec Elitsir. Et le rêve ne s'arrêtera pas, car je vous emmènerai découvrir le village d'Everdell, l'un de mes gros coups de cœur de ce début d'année. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous parlerai de Pearl Brook, sa première extension qui arrive en France cette semaine grâce à Matago. Je remercie d'ailleurs un Starling Games qui m'a permis de découvrir cette extension et qui apporte de nouveaux choix dans ce jeu qui est déjà très riche. On va en parler d'ici quelques instants. Alors avant de commencer ce C'est Ludique, lundi avaient lieu les nominations pour le Spiel, hein, le prix allemand qui récompense les meilleurs jeux, en gros, hein, le Graal du jeu de société. Et on peut déjà faire cocorico car les auteurs français sont à la fête. Pour le Kinderspiel, notamment, on retrouve le couple Wilfried et Marie Faure avec Fabulia, mais aussi avec Dragomino, qui a déjà obtenu l'As d'Or, hein, co-édité avec Bruno Catala. Troisième jeu nominé enfant dans le Spiel, c'est Mia London de Antoine Boza et Corentin Lebras, que je vous avais présenté l'année dernière. Une chose est sûre, hein, le Kinderspiel sera français. Concernant le Kennerspiel, alors là c'est la gamme expert, hein, on va retrouver Paléo, les ruines de Narak que je vous présenterai courant juin, et Fantasy Realms. Et enfin pour le Spiel, on retrouve bien entendu le gagnant de l'As d'Or, Micro Macro Crime City, mais aussi l'excellent, hein, Zombie Teens, et enfin les aventures de Robin des Bois, un gros carton outre-Rhin et qui sortira en France chez Yellow à la fin de l'année. Allez, il est temps de commencer et de se plonger dans la ville du bonheur. C'est Ludique, numéro 102, c'est parti.
C'est Ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors, Christophe Maé chantait « Il est où le bonheur ?» Il est où ? Bah, j'ai envie de vous dire, il est là devant vous sur votre table en jouant à Happy City, le nouveau jeu de Cocktail Games. Un jeu où justement vous allez devoir bâtir une ville où régnera le bonheur. Happy City est un jeu de Heru et Toshi Sato, illustré par Makoto Takami, des auteurs japonais, mais je pense que vous l'avez compris. Alors en ouvrant cette petite boîte qui s'emmène partout, car le bonheur n'a pas de frontières, on va trouver des cartes superbement illustrées représentant des bâtiments et des jetons. Alors sur ces cartes, il y a parfois des personnages et parfois des cœurs. Pour savoir qui est le gagnant, il suffit d'additionner les personnages et d'additionner les cœurs. Puis, vous multipliez les deux résultats, donc rien de bien compliqué. Si j'ai 7 personnages et 5 cœurs sur mes cartes, ça fait 7 x 5, ça fait 35. J'ai donc 35 points. On fait les calculs quand l'un des joueurs a construit son 10e bâtiment dans sa ville. Alors maintenant que vous savez comment gagner, je vais vous expliquer comment jouer. Et là aussi, rien de bien compliqué dans les actions. Déjà, avant de commencer, chaque joueur reçoit une première carte bâtiment. C'est une carte Happy Market. Sur la carte, vous aurez une pièce. Ils reçoivent donc cette pièce car elle est indiquée sur la carte Happy Market. C'est leur revenu. Chaque fois que l'on commencera un nouveau tour, tous les joueurs récupèrent leur revenu en fonction des cartes bâtiments qu'ils possèdent. Alors avant de commencer à jouer, il y a une mise en place à faire. On installe sur la table des bâtiments verts par colonne, ce sont les habitations. On fait 3 colonnes et on met une carte de moins que le nombre de joueurs dans chaque colonne. Vous jouez à 4, il y aura donc 3 cartes par colonne. Vous posez également les bâtiments spéciaux, les cartes roses, celles que vous pouvez obtenir si vous réalisez des objectifs. Par exemple, avoir 2 cartes bleues me permet d'avoir le Dino Park. Ouais, chouette, mais attention, chaque joueur ne pourra prendre qu'un bâtiment spécial dans la partie. Il faudra donc bien réfléchir. Alors, toutes les cartes bâtiments ont des couleurs, bleu, vert, orange, jaune et violet. Ces cartes, vous allez les trouver dans les différents paquets que vous allez poser sur la table pour faire 3 lignes. Il y a le paquet avec des bâtiments qui vont coûter de 1 à 3 pièces, il y a un paquet avec des bâtiments qui seront plus chers, 4 à 5 pièces, et le dernier entre 6 et 9 pièces. Alors forcément, plus les bâtiments sont chers, plus ils vous rapporteront de revenus, d'habitants ou de cœurs, du bonheur quoi. Une fois que vous avez dévoilé 3 bâtiments dans le premier paquet, on commence à jouer. Le but du jeu, je vous rappelle, est de faire une ville avec 10 bâtiments. Alors à votre tour, vous allez avoir plusieurs actions à faire. Déjà, si vous avez envie, vous pouvez défausser l'une des cartes bâtiments. Soit parce qu'elle ne vous plaît pas, soit parce qu'elle pourra avantager votre adversaire. Une fois que vous avez fait le ménage dans la zone centrale du jeu, vous devez retourner une ou plusieurs cartes d'un ou de plusieurs paquets pour avoir le choix, donc parmi 3 cartes et 3 bâtiments. Puis c'est le moment du choix. Vous allez pouvoir faire une action parmi trois possibles. Acheter l'un des trois bâtiments visibles. Pour ça, il suffit de payer le coût indiqué sur la carte. Exemple, je veux la bibliothèque, je paye 2 pièces. Acheter l'un des bâtiments des cartes vertes, c'est les habitations. Vous vous en doutez, la résidence de Lutz coûte plus cher que la maison ou l'igloo, mais l'avantage, c'est qu'elle rapporte aussi plus d'habitants. Et dernière action possible, vous n'achetez rien du tout, car vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'argent, ou vous ne souhaitez pas dépenser ce tour-ci. Dans ce cas, vous récupérez 1 pièce. Alors par contre, attention, vous ne pouvez jamais avoir 2 cartes identiques dans votre ville, même si vous aimez lire, pas possible d'avoir 2 bibliothèques. Une fois que tous les joueurs ont fait leur tour, on reprend avec la phase revenu. Chaque joueur récupère l'argent qui lui revient et on recommence les mêmes étapes jusqu'à ce qu'un joueur obtienne son 10e bâtiment. Alors il existe une variante expert en remplaçant les cartes roses par des cartes rouges avec des objectifs, comme par exemple, si vous posez cette carte, vous gagnez immédiatement 5 heures. Ouais, chouette, mais vous devez retirer la dernière carte posée de votre ville. Voilà. C'est tout, c'est simple, comme ça, mais réfléchissez bien de la façon comment vous allez construire votre ville. Et puis, les autres seront là pour vous embêter, forcément, ils n'aiment pas vous voir heureux. Attention, certaines cartes vous rapportent de l'argent, mais vous enlèvent des cœurs. Et oui, vous connaissez l'expression, l'argent ne fait pas le bonheur, et pourtant, il en faut quand même. En tout cas, on a du bonheur à jouer à Happy City, l'un de mes coups de cœur de ces 6 premiers mois de 2021 pour un petit jeu familial qui permet de nous évader. On finira par une chanson, comme on a commencé avec Since Emilia. Je vous donne tout le bonheur du monde, car pour moins de 17€, ce jeu est donné, et il apporte tellement de bonheur. On va revenir sur Happy City avec Mike de Codetel Games pour savoir comment ce jeu est arrivé dans la gamme de Codetel Games, puisque l'éditeur a plutôt l'habitude de sortir des jeux d'ambiance. Voici Coldplay sur Millennium avec Higher Power, on se retrouve juste après avec Mike.
C'est Ludique, l'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, c'est Mike de Codetel Games, puisque je viens de présenter la dernière sortie, Happy City. Bonjour Mike.
Bonjour.
Alors Mike, déjà merci d'être sur Millennium. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et comment t'es arrivé chez Codetel Games ?
Mike, donc je fais partie de l'équipe Codetel Games. Codetel Games, c'est 7 personnes, donc on est une petite équipe. On est un petit peu multitâche, même si chacun a un peu sa spécificité.
Ouais.
Moi, je gère une partie de la communication, la fabrication, c'est-à-dire le lien avec tout ce qui est les commandes de jeux auprès de l'usine et les échanges. Et puis, on participe aux tests, au développement de tous nos jeux.
T'as toujours été passionné de jeux avant d'arriver chez Codetel Games?
Oui, en tout cas, toujours, en tout cas depuis longtemps. Ça fait bien 20 ans, 20-25 ans maintenant que je suis un joueur. J'ai découvert les jeux de société modernes et j'ai toujours l'envie d'en découvrir de plus en plus, tellement c'est riche et que ça permet de découvrir et de passer des moments entre amis avec à chaque fois la découverte de nouveaux mécanismes, de nouvelles thématiques.
Alors on va revenir sur la sortie de Happy City, je crois que ça sort à la fin du mois exactement. Comment vous avez rencontré les deux auteurs japonais de ce jeu? Je crois qu'en plus c'est le père et sa fille.
Oui, exactement, c'est le père et sa fille. Alors tous les ans, nous allons au Tokyo Game Market, qui est donc un événement qui se déroule à Tokyo, où il y a 500, à peu près 500 auteurs de jeux, globalement, enfin une grande majorité d'auteurs amateurs,
ouais.
C'est-à-dire qui font leur premier jeu. Là-bas, les auteurs fabriquent un premier tirage de leur jeu de 500 exemplaires à peu près, eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils les font faire par un petit imprimeur à côté de chez eux.
D'accord.
Et pendant ce salon, ils vendent leur jeu, ce qui est très différent de chez nous, où nous, les auteurs vont aller démarcher des éditeurs,
ouais.
Proposer leur prototype, les faire tester, et l'éditeur va les choisir. Là-bas, les auteurs vendent leur petit tirage, et voilà, ils sont contents qu'ils ont vendu leurs 500 exemplaires.
Ouais.
C'est vraiment un petit côté passion, un petit côté loisir fait chez soi. Et alors certains sont des habitués, ils sont un peu plus professionnels que d'autres, mais ça reste une activité de loisir, de passion, et ils ont un métier à côté. Et donc on y va tous les ans parce que c'est vraiment très très riche en découverte. C'est vraiment un monde à part, déjà la culture japonaise, et puis toutes ces voilà toutes ces petites créations qui sont présentées sur un week-end. Et c'est là que nous donc nous avons découvert plusieurs de nos jeux déjà édités, comme Imagine par exemple.
Ouais.
Et on a vu Happy City parmi à chaque fois on revient avec 10, 15, 20 20 jeux qu'on a trouvé plus intéressants que d'autres, on les ramène en France et puis on les joue entre nous en équipe avec toute l'équipe et celui-là on a vu un réel potentiel. C'est le fait de tester beaucoup de jeux et de voir beaucoup de jeux permet un petit peu, même si c'est pas une science exacte, de détecter ce qu'on dit. Ah, celui-là il a un petit plus, celui-là il a ouais. un petit quelque chose où on a envie d'y rejouer.
Alors, les Japonais nous sortent quelques petites pépites ludiques, hein, c'est le cas avec Happy City. Comment tu définirais, toi, le style des jeux japonais ?
Ah, c'est assez difficile. Le mot qui revient souvent, c'est minimaliste.
Ouais.
C'est vrai que alors il y a une première contrainte qui est physique, c'est-à-dire que les Japonais, alors c'est toujours dur de généraliser, mais souvent ils ont une petite habitation, pas beaucoup de place, et donc ils ont des petites boîtes de jeux, et surtout ils n'auraient pas beaucoup de grosses boîtes de jeux. Donc contrairement aux États-Unis où ils aiment bien les grosses boîtes de jeux et d'en avoir plein.
Ouais.
Donc souvent déjà il y a cette contrainte qui fait que c'est des petits jeux de cartes avec peu de cartes dans une petite boîte très optimisée. Même s'il y a plein d'exceptions évidemment, mais c'est assez caractéristique. Et donc souvent une tendance à avoir un mécanisme très qui suit ce minimalisme, c'est-à-dire assez simple, mais pour se démarquer plutôt malin ou avec une bonne petite idée ou quelque chose qui va rendre le jeu unique parce que cette contrainte va naître une certaine créativité.
Ah, ce qui m'a marqué, moi, la première fois que j'ai joué à Happy City, hein, c'est que c'est simple et qu'on en a qu'une envie, c'est d'enchaîner les parties. Il y a un petit truc en plus qui fait voilà, qu'on veut enchaîner. Qu'est-ce qui a fait tilt chez vous pour Cocktail Games, pour l'éditer, ce jeu ?
Alors, c'est toujours un petit peu difficile à définir quel est le... Mais il y a ce petit plus, déjà, qui est assez difficile à définir, hein, en réalité, d'envie d'y rejouer, alors qu'on a beaucoup de protos qu'on reçoit et qu'on ramène du Japon, où parfois on dit vraiment c'est une très bonne idée, mais on passe au suivant.
Ouais.
Là, il y avait vraiment un petit côté, on a envie d'y rejouer. La règle est simple, avec des choses un peu déjà vues, mais avec une recette qui nous a bien plu.
Il y a eu différents protos. Qu'est-ce que vous avez changé, vous, au jeu ?
Alors, le jeu original, on n'a pas changé énormément de choses. Le jeu original avait un petit défaut.
Ouais.
C'est que les parties étaient assez proches parce qu'il y avait toujours un petit peu les mêmes enjeux. Donc, nous, on a rajouté énormément de bâtiments spéciaux.
D'accord.
Qui sont, alors, pour ceux qui n'ont pas joué, qui sont des bâtiments qui ont un petit pouvoir spécial qu'on va pouvoir prendre une fois dans la partie. Donc, il y a un nombre limité pour la partie.
D'accord.
Un petit peu se battre pour les prendre.
C'est ça, les bâtiments roses ou rouges, on y reviendra après. Ça, c'était pas inclus dans la partie quand vous avez ramené le jeu du Japon ?
Non, il y en avait quatre et toujours les mêmes pour
D'accord,
toute la partie.
Ouais. Ça a permis d'avoir une grosse rejouabilité sur le jeu. Alors, on a aussi un mode expert. C'était important, ça, de le rajouter ? Parce que c'est un jeu familial, mais finalement, qui devient un petit peu expert ?
Oui, alors, en fait, c'est venu assez vite, nous, quand on a testé, enfin, pendant le développement du jeu. Parce que donc on a voulu multiplier ces bâtiments spéciaux, ce qu'on a fait avec donc le mode famille,
ouais.
qui amène pas mal de rejouabilité et du coup des parties très différentes. Et on a voulu rajouter ce petit plus avec les bâtiments spéciaux qu'on a appelés experts, même si le terme est un peu exagéré, parce que ça permettait vraiment de varier encore plus les parties. C'est-à-dire que selon le tirage, selon ceux qui sont disponibles, selon les choix des adversaires, on va pas jouer de la même façon, on va essayer de s'adapter et d'optimiser la partie, et cela sans rendre le jeu plus compliqué.
Ouais.
Ça, c'était important pour nous. Cocktail Games, on n'est pas forcément dans les jeux très stratégiques.
On va y revenir
après. Ici, on voulait que ça soit accessible au plus grand nombre et juste permettre d'avoir un peu de stratégie, mais vraiment à la portée de tous.
C'est un japonais aussi qui a fait les illustrations du jeu.
Oui, tout à fait. C'est un japonais qui est d'ailleurs qui était l'illustrateur du jeu original japonais.
D'accord.
On a beaucoup aimé. Il correspond bien à l'ambiance qu'on avait envie pour ce jeu.
Donc c'est lui qui a refait toutes les autres cartes que vous avez rajoutées.
Oui. Alors heureusement, on a un correspondant au Japon qui est bilingue, qui nous a permis de faire le lien. Il y a eu quelques petites anecdotes culturelles sur les différentes demandes. De demander de l'aquaponais à un japonais, voilà, faut pas que ça perde à la traduction. Mais c'est extrêmement bien passé. On est extrêmement content du résultat.
Ah ouais, et puis c'est vraiment minimaliste, c'est style japonais, vraiment, on verra, si tous les bâtiments sont vraiment différents, ça c'est super chouette. Alors le monde du jeu évolue, Cocktail Games aussi, parce que Happy City, hein, c'est pas dans l'ADN de vos jeux habituels, même s'il y a eu quand même quelques exceptions.
Oui, alors la plus grande exception, c'est Anabi, qui est dans nos bestes et qu'on adore, et qui effectivement déjà plus stratégique que la moyenne de nos jeux. Oui, celui-là, alors comme je disais, il est un petit peu plus tactique que d'autres jeux, plus party game, plus uniquement dans l'ambiance. Mais on a aussi Sushigo, par exemple, qui est un petit peu dans cette catégorie, qui amène des mécanismes un peu plus joueurs, mais à la portée de tous. C'est-à-dire que ça reste, on reste dans notre ADN d'une règle qui prend 3 minutes, de parties qui durent 20 minutes à peu près, et donc vite assimilé et un plaisir de jouer qui vient très vite aussi.
Alors on va certainement comparer Happy City à Miniville. Est-ce que on peut dire, alors moi j'ai joué, est-ce qu'on peut dire que le jeu est plus profond et qu'il y a moins de hasard que dans Miniville?
C'est toujours compliqué à comparer des jeux, surtout que je ne serais pas très objectif sur la question. Dans Miniville, il y a le hasard des dés. Ici, il y aura un peu le hasard de la pioche,
qui
maîtrise un petit peu plus, mais qui est aussi une sorte de hasard. Donc des dés sont plus chaotiques, donc forcément, Happy City le sera un petit peu moins. On est dans une famille de jeux assez proche, clairement.
Ouais.
Là, du thème, c'est du jeu où toute la famille peut jouer et où des enfants de 8 ans, tout comme des adultes, peuvent jouer ensemble et tous y prendre du plaisir dans les deux cas.
Alors, Cocktail Games, ça, ce sont les jeux d'ambiance. Sans les festivals, c'est aussi compliqué de trouver de l'ambiance. Là, ça va, on va commencer à pouvoir se réunir de nouveau.
Oui, clairement, ça nous manque. Nous, on fait des jeux d'ambiance, notamment notre dernier jeu d'ambiance, Top 10,
ouais.
Où on a eu le plaisir de faire jouer à Cannes en 2019 et de voir plein de sourires, de rires après avoir travaillé 2 ans sur un jeu. On est tellement heureux de voir les gens s'amuser dessus. Là, ça nous a manqué de pas en faire plus et pas de voir des tablés de gens rire à nos jeux. Alors, on espère qu'ils sont amusés chez eux, en famille, de leur côté, mais on a hâte de refaire des événements et de voir les gens s'amuser. C'est un peu la récompense ultime quand on a travaillé sur un jeu.
Les futures sorties pour Cocktail Games, les projets en cours, ceux qu'on peut parler, bien entendu.
Bien sûr. Donc il y a Happy City à la fin du mois.
Ouais.
Donc, ensuite, on a un top 10 18+,
ouais.
Qui est donc comme top 10 avec des thèmes un peu plus piquants pour un public un peu plus adulte. Ensuite, on n'en a pas encore parlé, donc je peux vous en parler. On va rééditer Shabada.
D'accord.
Shabada. Qui sortira dans le deuxième semestre de l'année. où voilà, on a revu un peu le jeu, on l'a relooké, on l'a un petit peu modernisé, on a rajouté des petits challenges rigolos. Voilà, c'est un jeu qu'on aime bien parce que ça fait chanter faux souvent les gens. Et on, voilà, c'est notre ADN de jeu d'ambiance, de party games. Donc on est content de rééditer ce jeu.
Et puis on a Twinit, hein, qui Japan, qui vient de sortir là.
Oui, tout à fait, qui est sorti la semaine dernière, qui est un jeu d'observation rapidité que l'on a cette fois-ci thématisé sur le Japon, donc avec des superbes illustrations de naïades, avec plein de petits clins d'œil sur la culture japonaise, et qui sont surtout un prétexte à avoir des jolies cartes et des jolis motifs pour un jeu qui est déjà bien implanté, qui plaît déjà à beaucoup de gens, et ça permet de changer le domaine.
Ouais, on en avait parlé il y a un mois avec Tom, Nathalie et puis Rémi. Alors, dernière question, Mike, pour finir, où se trouve à toi ton Happy City, la ville du bonheur, quoi?
La ville du bonheur, hein. Ah, c'est compliqué. Surtout en ce moment, hein, ça serait presque une ville du monde d'avant. Déjà, avec des terrasses, des cinémas. Donc voilà, déjà, on se contente de peu finalement maintenant.
C'est ça, ouais.
Mais oui, c'est une ville avec du jeu, des amis, une boisson à la main. Et voilà, déjà, ça c'est chouette.
Il n'y a pas besoin de plus. Ouais. Merci beaucoup, Mike, d'avoir été sur Millennium. À très bientôt.
Merci.
Au revoir. Allez, nous, on va continuer de rêver, alors pas avec la ville du bonheur, on va aller dans un village dans les bois, le village d'Everdale, c'est juste après Lil Nas sur Millennium.
C'est ludique, l'indispensable de ta ludothèque.
Et maintenant, je vais vous raconter une histoire, celle du monde d'Everdale, un jeu attendu depuis longtemps que Starling Games propose désormais en français. Matago se charge de le distribuer en France. Alors suivez-moi, ne perdons pas de temps et prenons la direction ensemble de la vallée d'Everdale. On commence à la fin de l'hiver et on emmènera nos animaux jusqu'à la fin de l'automne. Vous allez diriger des tortues ou des souris, des écureuils ou encore des hérissons. La version collector vous propose même d'incarner des rats. Votre but sera de faire votre village et de le développer en construisant des bâtiments, de rencontrer des créatures, notamment en faisant comboter au maximum toutes vos cartes et placer au mieux vos ouvriers pour être le roi d'Everdale. Alors on va commencer par parler du matériel. Là, on fait waouh, sublime le plateau, les illustrations, les cartes qui nous racontent des histoires, les ressources avec des matières différentes utilisées avec les brindilles, la résine, les baies, les galets, les pièces métal dans la version collector, et puis il y a l'arbre 3D qui est placé au centre de la table et sert de support aux ouvriers des joueurs et aux cartes objectifs. Alors comment on joue? Eh bien chaque joueur reçoit des cartes, le premier joueur 5, le deuxième 6 et ainsi de suite jusqu'au quatrième joueur qui prend 8 cartes. Chaque joueur prend 2 ouvriers pour commencer. On place également 8 cartes dans la prairie du plateau d'Everdale. Voilà, vous êtes prêt à jouer et vous allez voir qu'à votre tour, vous ne pourrez faire qu'une seule action parmi 3 possibles. La première, c'est le placement de l'un de vos ouvriers pour aller récolter des ressources ou récupérer des cartes. Pour ça, il suffit bien de placer l'un de vos animaux sur un emplacement libre ou accessible à tous, car vous verrez que pour construire votre village, il faudra payer des ressources. Il faut donc aller les récolter. Certaines sont plus rares que d'autres, comme les petits galets. Alors, par exemple, pour construire une ferme, il faudra payer 2 brindilles de bois et une résine. Vous pouvez placer vos ouvriers sur des événements sous certaines conditions, exemple avoir 4 cartes vertes dans votre village, vous permet de faire une balade en bateau et de gagner des points de victoire en fin de partie. Vous pouvez vous placer sur les cartes forêt qui vous donnent plus d'options. Ces cartes sont placées aléatoirement en début d'une partie. Il est possible aussi de se reposer pour gagner des ressources. Dans ce cas, il faudra défausser 2 cartes de votre main pour obtenir la ressource de votre choix. Deuxième action possible, c'est jouer une carte, soit de votre main, soit de la prairie. Vous payez les ressources indiquées sur la carte et vous la posez dans votre village. Si pour reprendre mon exemple de la carte ferme, une fois payée en ressources, brindilles et résine, je vais récupérer une baie. La ferme fait partie des cartes vertes. Quand on pose une carte verte, on fait l'action tout de suite. Et à la fin du printemps et de l'automne, on peut la refaire. Il y a aussi des cartes rouges, marron, bleues, avec chacune ses conditions. Alors Everdale vous permet de comboter. Everdell est un jeu très stratégique où chaque carte de construction vous permet de jouer gratuitement la carte créature correspondante. Par exemple, si j'ai l'auberge, je peux jouer gratuitement l'aubergiste. Ça me permet d'économiser des ressources. Cela peut aider énormément à développer votre ville. Dernière action possible, la troisième du jeu, c'est de préparer la saison suivante. Une action que vous faites en général lorsque vous avez placé tous vos ouvriers et que vous n'avez plus assez de ressources pour placer de nouvelles cartes dans votre ville. Lors de cette action, vous allez récupérer tous vos ouvriers, puis se placer en haut de l'arbre en fonction de la saison. Au printemps, vous en récupérez un de plus, et vous allez refaire les actions de toutes les cartes vertes, celles de production de votre ville. À l'été, vous récupérez un nouvel ouvrier, et vous aurez le droit de choisir deux cartes gratuitement de la prairie. Et en automne, deux ouvriers vont rejoindre votre tribu, et une nouvelle fois, vous pourrez refaire l'action de vos cartes production. Refaire ces actions vous permettent en général de récupérer des ressources. Vous l'avez compris, plus vous aurez d'ouvriers, plus vous pouvez faire d'actions. Everdell, c'est plus qu'un jeu, c'est un univers d'ailleurs, c'est un univers. On va continuer de le découvrir avec Pearlbrook, la première des 5 extensions qui va sortir dans quelques jours en français. Mais avant de plonger dans la rivière d'Everdell, ce jeu est l'un de mes gros coups de cœur de ce début d'année, aussi bien au niveau des illustrations que de la qualité des composants que du gameplay. Mais il faut s'habituer au jeu. Ce n'est pas en une partie que vous comprendrez les mécaniques de l'univers d'Everdell. Le jeu se joue sur 4 saisons et souvent, les deux premières saisons ont l'impression de passer trop vite et on n'a pas pu réaliser ce que l'on voudrait. Everdell est un véritable défi. Parfois, vous aurez l'impression d'avoir un jeu moins bon que votre adversaire, une main moins intéressante, mais à vous de retourner le jeu à votre avantage en changeant votre jeu et en choisissant les bonnes options. Une expérience ludique vraiment très intéressante. L'aventure et l'exploration d'Everdell continuent dans un instant, juste le temps d'écouter Anne-Marie qui nous parle un petit peu de sa stratégie.
Everdell. La découverte de cette forêt pendant plusieurs saisons ne laisse pas les joueurs indifférents. En ce qui me concerne, la première partie m'a laissé perplexe. Le temps d'assimiler les règles et toutes les possibilités, établir une stratégie est difficile dès la première partie. Donc, une seconde partie était nécessaire pour commencer à vraiment apprécier toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et là, on devient captivé par cette balade dans les bois. J'ai cherché à construire ma ville en fonction des tuiles événements et en remplissant les contraintes demandées. J'ai cherché aussi à toujours avoir le maximum de cartes dans mes mains pour avoir la possibilité de construire ma ville sans qu'elle me coûte trop de ressources. Il y a une rejouabilité très importante et ce jeu devient quasi addictif, tellement il est complet et ne nous laisse pas voir le temps passer durant toute la partie.
C'est ludique, ça vient de sortir.
On repart à Everdell et croyez-moi, avec 5 extensions au total, je n'ai pas fini de vous en parler. Mais pour le moment, une seule extension est en français. Il s'agit de Pearlbrook, qui est la rivière du village. Cette rivière, vous la placez juste à côté du plateau principal, mais qui s'accorde parfaitement. Vous vous en doutez bien que vos animaux ne pourront pas aller dans cette rivière. Bah oui, ils ne savent pas nager. Vous allez donc récupérer un nouvel ambassadeur dans votre peuple. La grenouille, son but, aller récupérer des perles. Ce sont des nouvelles ressources pour Everdell. Ces perles, vous en aurez besoin avec les nouvelles cartes qui seront rajoutées au jeu. Elles ouvrent la voie à la construction de fabuleuses merveilles qui vous donneront accès à des ornements simples mais puissants. Alors Pearlbrook ajoute de nouveaux ouvriers, donc les grenouilles, et des emplacements exclusifs aux grenouilles, et vous remplacerez les événements classiques du jeu par les tuiles merveilles qui rapportent encore plus de points. Exemple, si vous placez l'un de vos ouvriers sur le pont du soleil, celui-là rapporte 20 points, mais ce n'est pas gratuit, il faudra donner des ressources pour pouvoir l'obtenir, cette merveille, dont 3 perles. Eh oui, en début de partie, vous aurez posé sur la rivière des nouvelles cartes destination. Vous pourrez y accéder uniquement avec votre ambassadeur grenouille, et si vous remplissez les conditions d'un des emplacements d'une carte destination fluviale, placez votre grenouille, récupérez la perle qui se trouve dessus, puis retournez la carte face visible afin de pouvoir obtenir là où les récompenses indiquées. Mais désormais, tous les joueurs ont accès à cet emplacement avec leur grenouille. Par contre, ils n'auront pas la perle car, comme on dit, le premier arrivé, le premier servi. Vous l'avez compris, les perles se font rares dans le jeu. Mais il y a moyen d'en obtenir une sur le haut fond, un emplacement ouvert en haut de la rivière. Mais pour gagner une perle, il faut payer 2 ressources de votre choix et vous défausser de 2 cartes de votre main. Pearlbrook donne aussi à chaque joueur 2 ornements qui coûtent une perle quand vous décidez de jouer la carte. Ça vous donne Une récompense instantanée et un bonus de fin de partie si votre ville correspond à certaines conditions. Exemple, la cloche permet de gagner 3 baies immédiatement et de piocher une carte pour chaque créature de notre ville. En fin de partie, vous gagnez un point de plus pour chaque série de 2 créatures. Alors Pearlbrook rend la partie d'emplacement des ouvriers encore plus fluide. Attention, votre grenouille ne pourra être posée que dans la rivière, vous ne pourrez pas l'utiliser comme un ouvrier de votre peuple. La version collector apporte un lot de nouveautés supplémentaires, contrairement à la boîte boutique, mais il y a déjà bien assez pour bien s'amuser. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire, on retrouvera certainement tous ces peuples dans quelques mois pour de nouvelles découvertes. Everdell, l'aventure continue.
C'est ludique, ça vient de sortir.
Pour finir ce C'est ludique, les enfants, partons à l'aventure maintenant avec le nouveau jeu des Space Co. en partenariat avec Elitseer. Dream Quest est un jeu d'aventure coopératif pour 2 joueurs. L'un des joueurs est plus âgé que l'autre, ça fonctionne très bien parent-enfant ou grand frère, petit frère ou encore grande sœur, petite sœur. Mais ça, je n'ai pas pu tester car je n'ai que des garçons. Alors dans cette aventure de Fabien Vincourt et Nicolas Jaricard, le plus petit joueur sera le rêveur, celui qui va combattre les monstres à coups de dés, entre autres, mais pas que, hein. Et l'autre joueur, le plus âgé, c'est le protecteur. C'est lui notamment qui va lire l'histoire, mais il a un rôle de garde du corps pour protéger le rêveur. Alors vous êtes prêts pour partir à l'aventure? Dream Quest est un jeu où le temps de cette lecture, vous allez être les héros. D'ailleurs, une fois que vous aurez terminé l'histoire, vous pourrez la personnaliser en créant un PDF ou, si vous souhaitez, un souvenir inoubliable de votre aventure. Vous pourrez même commander le livre, car à chaque page, il faudra faire des choix, donc le livre sera bien votre aventure. Dans Dream Quest, chaque joueur aura un plateau individuel où l'on retrouvera ses points de vie et ses pouvoirs. Le protecteur a notamment un des jetons boucliers. Ces points de vie, vous pourrez les perdre si vous combattez les monstres et que ça ne se passe pas super bien. Mais il n'y aura pas qu'un seul chemin. Il faudra faire des choix, plutôt passer par l'escalier de droite, ouais. Ou plutôt l'escalier de gauche, oui. Prendre la petite porte, ouais. Ou la grande porte, et puis vous allez comme ça changer de page. Chaque mauvaise rencontre pourra vous faire perdre des points de rêve. Mais vous devez vous aider pour en perdre le moins possible. Il faudra, c'est vrai, avoir de la chance au lancer de dés, obtenir les épées au bon moment, sans oublier de vous protéger avec les boucliers. Et puis parfois, vous allez récupérer des cartes trésors que vous pourrez utiliser au moment que vous choisirez. L'avantage, c'est que même lorsque vous avez fini l'histoire, vous allez la refaire pour choisir d'autres chemins. Mais pas que, vous allez également la faire évoluer cette histoire à force de faire plusieurs parties, elle changera. Vous avez d'ailleurs à l'intérieur de la boîte un livret avec des autocollants. Dans cette première boîte, nous avons le droit à une aventure en 2 livrets. Alors oui, on trouve ça un peu court, nous les adultes, et on aurait aimé quelques pages en plus, mais pour les enfants, eh bien, c'est parfait. On avance et on se retrouve confronté à des défis. Pour les réussir, on doit lancer des dés et espérer que le dé tombe sur la bonne face. Chaque personnage a un petit pouvoir particulier qui permet d'aider l'autre. Avec votre enfant, vous allez être embarqué dans le monde des rêves et rêver. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel finalement? Un mélange entre un livre dont vous êtes le héros, un jeu de rôle, chacun le sien, un moment à partager et à vivre avec son enfant. Dream Quest, l'épopée des rêveurs, n'est que le début certainement d'une nouvelle et grande aventure pour Space Co. qui nous surprend par la qualité d'édition de ces jeux pour nos enfants. Johan est ravi d'avoir vécu cette aventure avec moi et il nous en parle.
Millennium, c'est Johan.
Bonjour Johan.
Bonjour.
Alors Johan, on vient de jouer à quoi?
Un Dream Quest.
Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Dream Quest?
En fait, il y a un livre.
Ouais.
Le livre, il suit l'histoire du jeu de société.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On a chacun un rôle?
Oui, il y a le protecteur, le rêveur.
Alors toi, t'étais qui?
Le rêveur.
Parce que les plus petits sont les rêveurs et les plus grands sont les protecteurs.
Oui.
Et alors, ça permet de quoi d'être protecteur? C'est-à-dire, je vais te protéger?
Oui.
Comment on joue à Dream Quest?
Bah, on a un dé.
Ouais.
Un dé chacun.
D'accord.
On le lance.
Oui.
Il y a soit un bouclier, soit une épée.
Oui, ou d'autres symboles.
Il y a des cartes trésors aussi.
Et alors, ça nous permet quoi, ces cartes trésors?
Les cartes trésors, tu les as dans les lectures.
Et alors, ça te fait gagner quoi, ces trésors?
Bah, un pouvoir.
Comment ça se passe, l'histoire? Il faut faire des choix?
Oui, des fois, moi, j'étais avec mon papa et on a rencontré des méchants et qui attaquaient une dame.
Ah bon?
Oui, du coup, soit on les attaquait, soit on les esquivait.
D'accord, et qu'est-ce qu'on a choisi alors?
Du coup, moi j'ai choisi, parce que c'est toujours le rêveur qui choisit, j'ai choisi d'attaquer. Et du coup, on allait une page, et l'autre page c'était du numéro différent.
Est-ce que c'est un jeu que t'as bien aimé?
Ah oui, c'est mon préféré.
Ah bon? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce jeu?
L'histoire. Et j'ai bien aimé aussi les images, ils sont jolies sur le livre.
Merci Johan.
De rien. Je l'ai coupé un petit peu, Johan. Voilà, c'est ludique et terminé pour cette semaine. On a rêvé, on a parlé bonheur. La semaine prochaine, autre chose, puisque on va parler braquage. Si vous êtes fan d'Ocean Eleven, eh bien ça tombe bien, puisque Anne-Catherine et Dimitri Perrier seront mes invités pour parler de l'excellent jeu The Specialist. Salut et à la semaine prochaine. En attendant, jouez bien.